Hello! Le podcast Job & Sense revient dans tes oreilles avec un hors-série qui s'appelle Mon Rebond. Mon Rebond, ce sont des témoignages de personnes qui ont repris le chemin du travail après une période d'arrêt maladie. On parlera ensemble de comment ils ont vécu leur période d'incapacité de travail, de qui les a soutenus et de comment ils en sont arrivés à rebondir. Chaque histoire est unique, mais chaque discussion est riche de petites pépites à garder quelle que soit notre propre situation. Tu verras également qu'il n'y a pas une bonne façon de rebondir. La bonne façon de rebondir sera celle que tu choisiras et qui te correspondra. Le hors-série Mon Rebond a été créé pour compléter le salon Rebondir qui a lieu du 17 au 21 octobre 2022. Si tu écoutes cet épisode avant ou pendant la semaine du salon, il est encore temps de nous y rejoindre. Tu verras que parfois le son n'est pas excellent, mais comme on dit, mieux vaut fait que parfait. J'espère que ces épisodes te plairont autant à toi qu'à moi, parce que j'ai éprouvé beaucoup de plaisir à les enregistrer. Bonne écoute! Bonjour Véronique.
Bonjour Victoria.
Merci beaucoup en tout cas de venir nous raconter ton histoire sur le podcast de Job & Sense. C'est vraiment chouette et on va écouter ça, enfin on va partager ça ensemble tout de suite. La première chose que je pose en général, c'est si tu pouvais juste te présenter en quelques mots, qui es-tu, de manière assez libre.
Ok, voilà, je m'appelle Véronique. J'ai 46 ans, j'ai trois enfants, trois filles de 22, 20 et 13 ans. Je travaille dans le secteur de la... Enfin, j'ai toujours travaillé en lien de près ou de loin avec la formation, l'enseignement, comme formatrice ou responsable de projet ou comme enseignante dans l'enseignement secondaire. C'est vraiment, oui, ma vocation première. Mais voilà, en fonction des contextes, ça a parfois été plus difficile, on le verra. J'adore la nature, les balades dans la nature, les animaux, j'ai un chien, un chat. Je suis, on va dire, un peu hyperactive au niveau physique. J'ai toujours besoin d'être en mouvement. Je suis curieuse de plein de choses. Et donc, parfois, la difficulté de me mettre des limites, tant au niveau de la dépense de mon énergie physique que mentale. Et récemment, depuis un an, je pratique le yoga et le reiki. Je vais d'ailleurs demain suivre ma formation au troisième degré Reiki. Et ça, c'est vraiment deux choses qui m'ont beaucoup aidée justement à être plus zen, plus cool.
Super. C'est vrai, c'est chouette parce que j'ai l'impression qu'effectivement, tu te connais bien. En tout cas, c'est une chouette présentation de toi. On a l'impression déjà de te connaître un peu mieux. Ce que j'aimerais bien te poser aussi, c'est comment te sens-tu, ta santé, comment elle va aujourd'hui?
Aujourd'hui, je me sens vraiment bien. J'ai retrouvé un bon niveau d'énergie qui me permet de faire ce que j'ai envie de faire en veillant à être plus à l'écoute aussi justement des moments où j'ai besoin de me reposer, où je suis fatiguée. Quand j'étais plus jeune, même jusqu'à peu de temps, j'aurais forcé, en fait, j'aurais pas écouté ces signaux-là. Donc, je m'autorise, en fait, plus à me poser ou me reposer. J'apprends à dire non pour certaines choses. Et donc, je pense que tout ça fait que, j'ai un bon niveau d'énergie. J'ai retrouvé aussi le sourire ou de manière générale, plus de confiance en mes capacités physique et mentale, parce que ça, c'est quelque chose à un moment qui était difficile, c'est avoir l'impression qu'on ne peut plus se faire confiance à soi-même, que le corps ne sera pas là pour rassurer, que le mental ne sera pas là pour rassurer. Et de manière générale, comme je le disais juste avant, je pense qu'avec le yoga et le reiki, ça m'a apporté vraiment plus de... le fait d'être plus zen, plus sereine. C'est pas faute d'avoir essayé avant, parce que j'ai pratiqué un peu la méditation, mais je pense que ça me convenait moins bien. Comme j'ai un côté un peu hyperactif au niveau mental aussi, c'était plus compliqué, tandis que passer par le corps, c'est... Enfin, ça me convient mieux, en tout cas. Donc voilà, tout ça mis ensemble, je me sens bien.
Chouette. Et tu viens aujourd'hui nous parler, mais pas de un rebond, mais, et pas deux, mais trois rebonds
Oui.
que tu as eu dans ton parcours. Et je propose qu'on revienne un peu en arrière, un peu au moment où tout a changé et que tu nous parles un peu de cette période-là, de comment tu te sentais et comment était ton travail, un peu repartir en arrière. Voilà. Comment est-ce que ça a commencé, cette histoire?
Je dirais que ça a commencé ou ça s'est extériorisé il y a 7 ans. À ce moment-là, j'étais chargée de projet dans la formation continue et d'enseignant, responsable d'une équipe de formateurs. Alors, c'est un boulot que j'aimais beaucoup pour une majorité des tâches et tout ce qui était création de projet, coordination de l'équipe, suivi de l'équipe. Et puis, il y avait une partie dès le départ où je ne me sentais pas trop à l'aise et où, en fait, ce n'est pas mes compétences et mes centres d'intérêt premiers, c'est toute la partie plus administrative, gestion de données, où il faut être hyper méticuleux, etc. Et donc, au départ, ça avait généré beaucoup de stress dans l'entrée en fonction 3 ou 4 ans plus tôt, parce que là, j'avais jusque-là été enseignante dans le secondaire, donc j'avais plein de nouvelles compétences à acquérir. Et cette partie-là avait été très difficile au début, et puis je m'étais accrochée, j'avais trouvé comment mettre des choses en place et comment réaliser ce que je devais faire. Mais voilà, toujours en prenant un peu sur moi. Et donc, il y a 7 ans, quand il y a eu ce premier épisode de burn-out, en plus de ça, il y avait une crise de couple, il y avait eu l'achat d'une maison, des travaux. C'était une famille, enfin, un couple reconstitué déjà. Donc, j'avais connu auparavant déjà un divorce, des déménagements, la perte de mon boulot d'enseignante comme ça, alors que j'étais bien installée, mais je n'étais pas nommée. Et donc, finalement, mes collègues nommés ont dû récupérer des heures. Donc, j'avais traversé des moments déjà difficiles avant, mais où là, j'avais toute l'énergie et j'avais pu rebondir. Mais je pense que ça avait quand même déjà laissé une certaine fragilité. Mmh. Et puis, donc, il y a 7 ans, cette fragilité qui était un peu cachée, plus ces événements-là, j'ai craqué. Mais là, j'ai rebondi assez vite, en fait. J'ai été en arrêt de 2 mois.
Est-ce qu'on a parlé assez vite de burn-out à ce moment-là?
Oui. Oui, parce que en fait, ça faisait plusieurs jours, plusieurs semaines que c'était difficile, que je me forçais pour aller au boulot, que je pleurais dans ma voiture sur le trajet. Je ne savais même pas dire pourquoi, si c'était lié au boulot, si c'était lié... aux problèmes personnels. Et il y a un matin, je suis partie vers le boulot, j'ai déposé mes enfants à l'école et je me suis dit, ah non, je ne saurais pas y aller. Et je suis rentrée chez moi. Et donc, oui, on a parlé burn-out. Donc voilà, j'ai eu besoin de 2 mois d'arrêt pour vraiment récupérer physiquement et mentalement. Et puis, c'est moi-même qui, très vite, ai eu besoin de retravailler parce qu'il y avait tous les aspects que j'aimais dans ce boulot-là qui m'attiraient. C'était une façon de retrouver des contacts aussi avec des personnes avec qui je m'entendais bien, mm-hmm. puisqu'on était en phase de séparation. Et puis, il y avait l'aspect aussi sécurité financière, où ça me faisait du bien d'avoir un boulot. Et donc là, j'ai repris à mi-temps médical.
D'accord. Et ça, c'était en lien avec l'entreprise? Ils ont fait quelque chose pour ton retour? C'était en discussion avec la mutualité?
Donc, je ne sais plus comment ça s'est passé. Donc, on a parlé mi-temps médical avec mon médecin. À ce moment-là, comme c'était assez bref, je n'ai pas le souvenir d'avoir eu contact avec la mutuelle. Et donc, en contactant mon employeur, on a mis en place. Donc, j'ai été déchargée de certains dossiers. Voilà, on m'a laissé me concentrer sur la partie principale que je préférais aussi, parce qu'effectivement, il fallait réduire le temps de travail au mi-temps. Mm-hmm. Et ça, c'était de avril à fin août. Et donc, ça, là, je trouvais que c'était vraiment très confortable. Ça me permettait de... Ce que je faisais, en fait, c'est que je travaillais le matin, et puis l'après, le matin jusqu'au début d'après-midi. Et puis, je pouvais me reposer l'après-midi. Ça me faisait du bien, quoi.
Donc, tu as recommencé mi-temps et puis tu as évolué vers...
Et donc, en septembre, ben, mon médecin me disait, ben, ça va, c'est bon, tu te sens bien, ce serait bien de recommencer. Et donc là, j'avais l'opportunité de prendre un 4/5e, parce que je n'avais pas encore utilisé mon congé parental pour ma dernière fille. Et donc, j'ai repris à 4/5e temps. Les 2 premières semaines ont été très, très difficiles. J'étais crevée quand je rentrais à la maison. Il fallait vraiment que je prenne 1 heure pour me... pas faire une sieste, mais je faisais de la méditation, je me reposais. Et je crois qu'après 3 semaines, je suis allée voir mon médecin en me disant, ça va pas, j'ai craqué, c'est trop dur. Et elle m'a dit, non, non, ça va aller, il faut me ressourcer sa chic. Et j'ai tenu le coup et j'ai repris.
Donc tu t'es senti mieux au niveau... ça t'a mis un temps d'adaptation, mais à un moment donné, le 4-5e a été quoi.
Oui, et après, ben voilà, le fait que je me dise, bon, le médecin me dit que ça va aller, qu'il faut mordre un peu sur ma chic, voilà. Et puis, ben oui, j'ai au fil des semaines, j'ai retrouvé un rythme, et ça s'est bien passé. Bon, j'ai de nouveau été confrontée à certaines tâches qui étaient celles qui me plaisaient moins. En fait, quand j'ai repris le travail, je savais que je n'y resterais plus des années et des années parce que je savais que ces tâches-là, ben, faisaient partie de ma fonction, que je ne voyais pas comment on pouvait faire évoluer, qu'il n'y avait pas beaucoup d'évolution possible en interne.
Oui.
Mais voilà, je n'avais pas d'autres pistes et je m'étais dit, ben, je prendrais le temps au fur et à mesure de chercher autre chose ou d'abord de voir ce vers quoi je pourrais aller. Et donc, quand j'ai repris la 4/5e, j'ai commencé une formation de promotion sociale en traiteur.
D'accord. Et
Ouais.
comment t'es venue l'idée justement du traiteur? C'est par un parcours de réflexion personnelle? Tu as été accompagnée?
Alors, c'est réflexion personnelle, mais pas accompagnée par rapport à cette décision-là. En fait, mon papa était restaurateur, je suis née là-dedans, c'est sa maman qui avait initié le restaurant. Et déjà au moment du choix de mes études supérieures, je m'étais dit, tiens, soit je fais des études supérieures ou je vais vers ça. Puis comme je réussissais bien à l'école et pour mes parents, c'était important d'avoir un diplôme, ce que n'avait pas, enfin, en tout cas pas un diplôme d'études supérieures. J'avais fait des études et j'avais un peu abandonné l'idée. Puis vers 30 ans, l'idée était un peu revenue aussi, même si je me plaisais bien dans mon boulot de prof. C'est quand même un univers qui m'intéressait. Donc voilà, l'idée a toujours été là. Et donc, quand j'ai commencé la formation, je me suis dit, bon, ben voilà, j'ai besoin d'un petit nouveau projet en même temps que je reprends le boulot à 4/5e. Ce sera l'occasion de voir si c'est juste une idée. Qui doit rester dans un coin de ma tête. Et j'ai commencé vraiment la formation en me disant, je ne sais pas vers quoi ça me mènera.
Et une question, c'est comment concrètement ça se passait? C'était des horaires décalés? Ça,
Oui.
c'était un congé éducation?
Non,
C'était...
je n'avais pas de congé éducation et donc c'était un soir par semaine, de 17h à 22h15.
D'accord.
Un soir par semaine, et puis en fait, il y a un petit module de formation de salle qu'on doit. Enfin, on a 2 modules à suivre, et donc pendant 3 mois, il y avait un deuxième soir par semaine au même rythme,
D'accord.
au même horaire. Ça, c'est pendant 3 ans. Et puis ben voilà, je me suis sentie comme un poisson dans l'eau. Donc très vite, je me suis dit, oh, c'est chouette, je continue. Et comme généralement, je ne fais pas les choses à moitié, je me suis dit, je continue jusqu'à avoir l'accès à la profession. Donc ça voulait dire 2 fois 100 heures de stage. Et
Ah
un
oui?
travail de fin d'études.
Mais comment t'as fait tes stages en même temps que tu travaillais? Raconte.
Ben, c'était le vendredi soir, samedi soir. Et donc, en fait, ça, c'était les premiers stages, j'ai dû les faire ben, la deuxième année scolaire, donc la deuxième année où j'avais repris à 4/5e. Et là, en fait, j'ai tenu un mois. Je crois, j'ai fait 40 heures et puis je me suis dit, non, c'est trop dur, j'y arrive pas. C'est vrai que j'avais les 3 enfants, j'étais seule avec eux, j'avais le boulot. Et donc là, j'ai arrêté les stages en me disant, là, pour le moment, c'est trop dur, je verrai l'année prochaine. Donc, j'ai fait ma deuxième année. Et puis, ben, pendant cette deuxième année, de mars à juillet, j'avais acheté une maison, donc c'était travaux de rénovation. Donc, un entrepreneur faisait, mais je faisais aussi un petit peu ce que je
Oui, ça prend beaucoup de temps.
Le mercredi, qui était mon jour de congé du 4-5e, j'allais travailler et le week-end aussi. Donc, déménagement fin juillet. On était dans des gros projets à ce moment-là, au boulot, parce que c'était donc la formation continue était enseignant, c'était le début du pacte d'excellence. Donc, voilà, on avait beaucoup de choses à mettre en place. J'ai repris le travail au mois d'août, un peu fatiguée, mais ça allait. Et puis, en fait, fin septembre, j'ai craqué. Ça a été le deuxième épisode.
Alors, c'était combien de temps après? Deux
2 ans et demi après le premier.
ans et demi après, et c'était
Ouais.
toujours au même endroit.
Et là, j'étais toujours dans le même boulot. Et donc là, quand c'est arrivé, je me suis dit, ben, je ne retournerai plus dans ce boulot, je ne saurai plus.
Et le deuxième épisode, du coup, tu as senti les signes plus rapidement du burn-out ou...
Ouais, je les ai sentis, mais je ne les ai pas écoutés. Je crois qu'à partir du mois de mai, j'arrivais au boulot, la boule au ventre. Donc, si je ne prenais pas 10 minutes, un quart d'heure, une fois sortie de ma voiture pour aller marcher un petit peu avant de rentrer dans le bâtiment, je pleurais, etc. Et donc, j'ai essayé de gérer les trucs comme ça en me disant, bon, ben, je suis stressée, j'essaie de me déstresser, mais je vais travailler. Ben, c'est vrai que j'avais acheté une maison seule, donc voilà, je m'étais mis cette pression-là aussi. En même temps, je me disais, tant que j'ai un CDI, ce sera plus facile pour avoir après, donc il faut que je l'achète maintenant. Et voilà, après coup, je me dis, j'ai bien fait pour ces aspects-là financiers. Mais donc voilà, j'y avais, les signes étaient là, mais je les niais en me disant, c'est pas
Oui, t'as pas
possible.
voulu les écouter en te disant je suis forte, ça
Ouais,
va passer.
ça va
Mon
passer.
médecin m'a dit que ça allait passer, c'était
Oui,
stressant.
c'est ça. Donc, ça a été comme ça. Et puis, ben, c'est vrai qu'il y a eu la fatigue des dernières semaines de travaux, le déménagement. J'étais dans une relation de couple à ce moment-là. Enfin, on n'habitait pas ensemble, mais où je sentais que c'était plus trop ça. Et en même temps, c'est la personne qui m'avait aidé pour les travaux. Donc, pour avoir décortiqué un peu après, ben, conflit de loyauté, en me disant j'arrive à la fin des travaux. Et en même temps, je sens que la relation, je vais y mettre fin. Et voilà, donc tout ça mis ensemble, j'ai fini par craquer fin septembre. Et donc, oui, le premier signe, c'était vers le mois de mai, quelque chose comme ça. Il faut savoir que mai-juin, c'était des 2 gros mois au niveau du boulot. En termes de charge de travail, c'était heures supplémentaires.
Et tu as eu des vacances en juillet-août, mais tu t'es pas senti reposé, quoi, c'est ça?
Oui, c'est ça. Ben, en général, donc, j'avais le nom, enfin, j'avais pas les congés de l'enseignement, j'avais les congés d'un employé. Donc, je crois que j'ai pris 3 semaines. Je me suis sentie un peu reposée quand j'ai repris, mais pas suffisamment, parce que sur les 3 semaines de congé, ben, il y avait eu une semaine de travaux, le déménagement et une semaine de rangement et faire les caisses. Voilà, on n'était pas parti en vacances, donc c'était pas les vacances les plus reposantes.
Et
Voilà.
quand tu es tombée donc en burn-out la deuxième fois, est-ce que du coup tu t'es dit que ça allait prendre plus de temps?
Ouais. Là, je me suis tout de suite dit, ben, c'est clair que le boulot, je ne le reprendrai pas là. En même temps, comme j'allais commencer ma troisième année et dernière année de formation traiteur et que ça me plaisait beaucoup, je voyais une perspective là qui se dessinait, de me dire ben, j'ai peut-être quelque chose pour à l'après. Mais les 2 premiers mois, enfin le premier mois, je dormais la nuit, puis je refaisais une sieste le matin, une sieste l'après-midi, je faisais rien, j'étais incapable de lire. La seule chose que je faisais, c'était d'aller marcher 1 heure, 1 heure et demie, parfois 2 heures par jour. Là, ça me faisait du bien parce que je m'évadais complètement. Enfin, voilà. Ça, le premier mois, c'était ça. Je ne faisais que ça. Même lire un roman, je ne savais plus. Même lire un magazine, ça n'allait plus non plus. Donc, il y avait vraiment que la nature qui me faisait du bien.
Puis à
Le
ce moment-là, tu
deuxième.
te sentais entourée.
Non. J'étais seule puisque la relation était terminée. Je m'en voulais aussi, comme j'ai dit, un peu conflit de loyauté. Et si, enfin, j'avais mes amis, j'avais ma famille, mais je crois que je culpabilisais beaucoup de refaire un second épisode parce que c'était vraiment de reprendre le mur une deuxième fois en pleine figure. Et j'étais, oui, dans de la culpabilisation en me disant, mais c'est moi qui n'y arrive pas.
Est-ce que, du coup, tu t'es fait accompagner à ce moment-là par des professionnels?
Oui, donc ce que je n'ai pas dit, c'est que dès le premier épisode, mon médecin traitant m'avait recommandé une thérapeute. Et donc, elle m'avait accompagnée pendant 4-5 mois, je pense plus ou moins jusqu'à la reprise du travail à 4-5e, où elle travaillait un petit peu en hypnose, un petit peu en cognitivo-comportemental. Ça m'avait aidée. On essayait d'apaiser un peu l'hyperactivité mentale. Et je pense que ça m'avait bien aidée. Et puis, en fait, vers la fin de l'accompagnement a duré 4-5 mois parce qu'elle déménageait. Et donc, les 2-3 derniers rendez-vous, je trouvais qu'elle n'était plus très disponible, plus à 100% dans l'accompagnement. Et en même temps, je trouvais que j'allais mieux. Et donc, au deuxième épisode, mon médecin traitant, je pense que c'est via elle aussi, elle m'a recommandé une autre personne, ou c'est moi qui ai cherché, je ne sais plus. Enfin, ce n'est pas important. Et donc là, j'ai été accompagnée, j'allais dire, entre au moins un an et demi par cette personne, où voilà, on a pu analyser une bonne partie de mon parcours, voir un peu au niveau de... à la fois de ma personnalité, quels étaient certains facteurs qui me rendaient plus vulnérable au burn-out, faire l'analyse aussi du boulot, du contexte du boulot, où il y avait aussi des facteurs manque de personnel, ouais, il y avait pas mal de choses aussi qu'on pouvait identifier. Et c'est vraiment un accompagnement qui m'a fait beaucoup de bien. Il s'est terminé, mais je pense après un an et demi ou deux ans, parce que la personne réduisait sa charge de travail de temps plein à mi-temps. Elle n'est pas trop entrée dans les détails, mais voilà, elle était aussi dans un changement de sa vie et donc elle ne savait plus me suivre. Bon, à ce moment-là, j'avais déjà beaucoup, beaucoup progressé dans la connaissance de moi-même, dans les facteurs d'identification du burn-out, mais j'avais encore besoin d'un accompagnement. Donc, le fait que ça se termine, ça m'a pas mal insécurisée au départ. Et puis, elle m'avait orientée vers quelqu'un qu'elle connaissait où le suivi s'est prolongé pendant 4-5 mois, ou même un peu moins. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, bon, c'est plus ça dont j'ai besoin. Je pense que je suis arrivée au bout. Et ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'en parallèle, je pense que déjà après le premier épisode, je ne sais plus si c'est après le premier épisode ou le deuxième épisode, j'ai suivi le cycle de méditation pleine conscience, qui m'a beaucoup aidée sur le moment, qui m'a fait surtout, enfin, j'ai retenu deux choses fondamentales, mais qui ont un peu révolutionné la façon de voir les choses. C'est que d'une part, les pensées qui traversent notre esprit ne sont que des pensées, elles ne sont pas des réalités. Et donc, il ne faut pas les prendre au pied de la lettre ni les croire à 100%. Mm-hmm. Or, avant ça, moi, j'étais à fond dans tout ce que je pense est vrai.
Oui.
Tout ce que je pense, je dois y croire. Tout ce que je pense a un sens, etc. Et la deuxième chose, c'était aussi par rapport... aux émotions, j'étais quelqu'un qui avait du mal avec les émotions, je pense qu'il les fuyait dans l'hyperactivité physique. C'est que une émotion désagréable, en fait, elle dure, le pic dure quelques secondes, une minute. Et donc, j'avais eu un entretien préalable avant le cycle de méditation pleine conscience. Et j'étais au tout début du burn-out, j'ai fait une crise d'angoisse. Je me suis sentie très, très mal parce qu'en fait, le psychologue m'écoutait très attentivement, mais il parlait très peu. Et quand il parlait, il réfléchissait. Je voyais qu'il réfléchissait beaucoup avant de parler et qu'il pesait chaque mot. Et c'est une attitude qui m'a complètement décontenancée et qui m'a fait me sentir très mal. Et donc, il m'a accompagnée dans cette crise d'angoisse et ça, il m'a vraiment expliqué, oui, mais en fait, cette émotion, cette sensation désagréable, tu sens qu'elle arrive. Elle va augmenter très, très fort Mais en fait, le summum très très fort, il ne va durer que quelques secondes, une minute. Et puis, si tu l'acceptes, que tu respires et que tu ne surajoutes pas du stress, de l'anxiété, de la peur par rapport à cette émotion, ben, elle va s'apaiser, décliner. Outre donc ce que la méditation m'a appris, ça c'est vraiment deux choses qui ont révolutionné ma vie. Et à ce moment-là, j'arrivais après coup à régulier, enfin, à mettre des petites choses en place pour pouvoir méditer ou en tout cas me poser pour respirer, etc. Et ça, j'ai su le faire pendant quelques mois. Oui, et donc c'était au premier épisode de Burnout, pendant quelques mois à la reprise du travail.
Ça t'a fait aussi du bien.
Oui, et j'ai refait par l'année d'après un deuxième cycle, c'était sur l'autocompassion. Parce que là, ça m'a aussi beaucoup appris sur le fait que je m'écoutais pas, que j'écoutais pas les signaux de mon corps, que je m'autorisais pas à être fatiguée, plus faible, plus vulnérable par moment. En fait, moi, c'était chaque fois une défaillance. Mon énergie, j'étais pas capable de la donner à 100%. J'étais défaillante. Donc voilà, ça m'a aidée. Ça m'a aidée.
Et donc cet épisode de burn-out a duré combien de temps?
Alors, le deuxième, en fait, j'ai été en arrêt 3 ans au total. Après la première année, ben, j'avais eu des contacts avec mon employeur. Je lui avais dit clairement que je ne reprendrais pas ce boulot-là. Donc, j'ai eu mon C4 médical, mais c'était d'un commun accord après 1 an. Et en fait, après cette année-là, pendant cette première année-là, ben, j'ai terminé ma formation traiteur avec l'accord du médecin conseil, en fait. Parce qu'on peut, dans des parcours de réorientation, soit reprendre une formation. Bon, ben, moi, je l'avais déjà commencé, mais j'ai dû demander l'autorisation de la poursuivre.
Et tu l'as eu
L'autorisation pour
facilement?
pouvoir. Oui, je l'ai eu tout de suite, en fait.
Ah
J'ai simplement dû rendre un document papier.
oui.
Et j'ai eu l'accord, je pense qu'on a peut-être eu un entretien enfin, où je vais lui expliquer un peu mon projet. Et je ne sais pas si c'est comme ça dans toutes les mutuelles, mais en tout cas, à partir du moment où il voit qu'on essaye de mettre des choses en place. Enfin, moi, j'ai eu un accompagnement, je trouve, assez fantastique de la part de la mutuelle.
Chouette,
Ouais.
c'est inspirant, tu vois, pour les autres aussi.
Ouais.
Et c'est vrai que pendant le salon, on va aussi avoir une partie se former, c'est possible quand on en a la capacité, mais c'est chouette
Ouais.
d'avoir justement le retour de quelqu'un qui a utilisé cette possibilité.
Que je ne savais pas si ça allait passer, si ça allait être accepté, donc ça me stressait. Et en même temps, ben, je me disais, enfin voilà, il me reste 1 an. Et je n'acceptais pas non plus que le deuxième épisode de Burnout mette un arrêt à ça. Alors là, c'était peut-être de nouveau dans le fait de ne pas écouter, parce que j'ai arrêté de suivre les cours le mois de novembre. J'avais continué à les suivre au mois d'octobre en disant, je continue quand même ça pour ne pas être à 100% d'arrêt. Et puis au mois de novembre, je me suis rendu compte que c'était trop dur, quoi. Le fait, c'était une soirée, le fait qu'il y ait du monde. J'arrivais plus trop à gérer le temps, les consignes, etc. Donc j'ai fait un arrêt total au mois de novembre. Décembre, il n'y avait quasiment pas de cours. Puis j'ai repris en janvier. Et donc c'est là que je me suis allée un petit peu mieux déjà et ça me faisait du bien de me raccrocher à quelque chose. Et donc là, j'ai fait mes stages qui me restaient à faire, le travail de fin d'études. Alors, bon, j'ai fait des études universitaires, donc en soi, le travail de fin d'études, pas très compliqué comme c'est niveau promotion sociale. Mais bon, ça demandait quand même du travail en termes d'heures de travail et ça demandait de repasser du temps sur des fichiers Excel et fichiers Word. Et il faut savoir qu'à mon deuxième burn-out, j'aurais dû le dire, dans les premiers signes avant le burn-out, le fait de passer des heures sur l'ordinateur, c'est quelque chose qui disait que quand j'éteignais l'ordinateur, j'étais dans un état de stress et de colère très très fort. Et donc devoir repasser du temps sur l'ordinateur pour le travail de fin d'études, c'était très très dur, quoi. Au début, c'était une demi-heure, 1 heure grand maximum. Je ne savais pas plus au niveau de la concentration. Et après 1 heure, ben, il fallait que j'aille marcher, faire quelque chose pour me calmer parce que ça me mettait dans un état de nervosité très très fort. Et voilà, au fur et à mesure des semaines, enfin, j'ai su gérer un peu plus, mais c'était maximum. Au maximum, je pouvais passer 2 ou 3 heures sur la journée à l'ordinateur pour mon travail, quoi. Plus c'était impossible. Et donc j'ai eu, ben voilà, j'ai eu mon accès à la profession. Et en même temps, je m'étais inscrite, comme j'étais aussi dans un questionnement par rapport à ma carrière, en me disant, tiens, je vais avoir l'accès à la profession, est-ce que je me lance comme indépendant, etc. J'ai eu l'opportunité, bah, aussi avec l'accord du médecin conseil, de suivre un module d'accompagnement à la création de projets d'entreprise avec ce qu'on appelle une SAS, je pense.
Oui, ça
Moi,
c'est en
c'était les.
Wallonie.
Oui, voilà, en Wallonie. Moi, c'était Jobin à Namur.
Oui,
Et
d'accord.
donc, j'avais une journée de formation par semaine, de février à mai, je pense. Ça aussi, c'était très dur au début de passer une journée dans une salle de formation, rester assise, me concentrer. Au fur et à mesure des semaines, des mois, ça a été mieux. Mais voilà, ça m'a aidé à réfléchir à un projet. Et en fait, il y a des opportunités via des contacts avec mes profs. Du CFA, où finalement, ben, grâce à l'accès à la profession, j'ai monté un projet de traiteur et un autre projet d'une manufacture de pâtes fraîches, donc
Ah
créer
oui,
des
donc tu
pâtes
avais deux
fraîches alimentaires.
projets,
J'avais deux projets.
deux projets.
Voilà. Donc c'est ça que je dis. Bon, j'ai été en arrêt 3 ans, mais en fait, j'ai réellement été en arrêt. De fin septembre à début janvier. Et puis après, ben, c'était.
Tu t'es mise en action, quoi, c'est
Je
ça?
me suis mise en action. Donc, je n'étais pas à l'arrêt total. Et en même
Mais.
temps, j'en avais besoin parce que pour moi, avec ma personnalité, être en arrêt total pendant longtemps, c'est très, très dur.
T'as aussi fait ça, mais donc tu t'es mise en action, ça te donnait aussi de l'énergie, mais tu t'écoutais aussi, donc tu disais,
Oui.
bah, je sais que ça c'est difficile, donc par exemple ton travail de fin de formation, bah, tu l'as fait, tu t'es pris évidemment plus à l'avance peut-être que d'autres qu'en disant, mais moi je sais me concentrer que 30 minutes, 1 heure, bah, ça veut dire qu'il me faut beaucoup plus de jours, mais ça
Oui,
va arriver au bout, enfin, j'ai à la fin, je vais y arriver.
tout à fait. Comme j'étais en arrêt maladie, ben, j'avais suffisamment de temps pour pouvoir étaler mes moments de travail. Et effectivement, si j'avais travaillé en maladie, ce ne serait pas arrivé.
Tout à
Donc,
fait, ça, oui.
voilà, je me suis
Et
mise en action, mais effectivement, je n'étais pas dans une charge de travail
bah,
du
tu
temps
t'es
et temps.
écouté, quoi.
Oui,
Ouais.
oui.
Mais et traiteur, tu t'es pas dit et les horaires et justement les limites que je vais me mettre, comment est-ce que tu as.
Ben en fait, dans la réflexion que j'avais, c'était de me dire, ben, je ne veux pas travailler le soir ou vraiment de manière très, très minimale, parce que ça, je savais que c'était depuis le premier épisode de Burnout, je me suis rendu compte que faire des heures supplémentaires sur l'ordinateur le soir, c'était très dur et qu'après, je le payais parce que je dormais très mal la nuit. Donc ça, j'avais déjà évité. Et je m'étais rendu compte, ben, pendant ma formation traiteur et les stages, que en stage, ben, faire le service du soir, c'était dur. Surtout, je ne dormais pas bien et j'étais très fatiguée le lendemain. Et donc, je m'étais dit, ben, en tout cas, ben, j'ai la chance de pouvoir faire le test tout en restant sur la mutuelle. Donc, je n'avais pas la peur financière de me dire, je dois me lancer à 100% et je n'ai aucun filet de
Et donc,
sécurité.
tu étais en tant qu'indépendante complémentaire, alors?
Oui, j'étais en tant qu'indépendante complémentaire. Et alors, en réfléchissant au projet, mais je m'étais dit, mais moi, je vais plutôt essayer de viser des drinks d'entreprise le midi. Je voulais monter des petits ateliers culinaires, etc. Et donc, je m'étais dit, ben voilà, je vais le faire en test. J'accepterai un événement par semaine maximum le soir. Le reste, je viserai en journée. Et de toute façon, comme j'étais en indépendant complémentaire, ben je ne pouvais faire qu'un mi-temps au maximum pour rester en accord avec l'accord du médecin conseil. Et je n'aurais pas pu faire plus de toute façon,
Et c'était en quelle
physiquement.
année, juste rappelle-nous qu'on resitue.
Donc ça, j'ai commencé en octobre 2018,
D'accord.
le projet traiteur et le projet de fabrication de pâtes. Alors, j'ai fait ça pendant, je vais dire, un an, jusque fin 2019. Et au fur et à mesure que les mois passaient, ben, au départ, c'était beaucoup de stress parce qu'il fallait tout mettre en place, retrouver des nouveaux automatismes, des nouveaux repères. Et donc, après un an, je me suis rendu compte qu'à nouveau, ben, j'étais fort stressée, que je perdais le plaisir de cuisiner, que je n'étais plus que dans le souci d'être rentable, de gérer mon temps, etc. Et là, je me suis dit, ben, ça ne va pas. Ça a été une belle expérience, mais ce n'est pas un emploi durable pour moi. Je ne tiendrai pas physiquement. Déjà ici, en travaillant même pas à mi-temps, je suis fatiguée, stressée. Et voilà, et en faisant les bilans comptables, ce n'était pas possible d'en vivre. Quoi. Et donc, j'avais un événement le 31 décembre 2019. Ça a été très dur parce que je voulais l'assurer, parce qu'en plus, c'était quelqu'un qui avait réservé ça depuis le mois de mars. Mais j'étais très contente de l'avoir fait, mais ça a été un enfer. Quoi. Parce que j'ai vraiment dû me forcer. Et donc, après ça, je me suis dit, janvier, février, je refuse, enfin, je n'accepte rien. Arrêt total, je sens bien que je vais craquer. Et donc fin février, juste avant le Covid, j'avais pris la décision d'arrêter l'activité traiteur, l'activité fabrication de pâtes artisanales avec mon co-associé. On avait déjà décidé d'arrêter plusieurs mois plus tôt parce qu'on se rendait compte que on avait été hyper motivés par le projet au niveau valeur, parce qu'on travaillait en produits locaux, produits bio, mais qu'en fait fabriquer des pâtes dans un atelier, ça nous convenait pas. Et donc oui, j'ai pris la décision d'arrêter en février 2019.
Et en même temps, tu n'avais pas de regrets
finalement. 2020, je me trompe, c'est février 2020. J'avais pas de regrets. J'étais contente de l'avoir fait et de me dire finalement cette idée qui avait toujours trotté dans ma tête, l'activité en lien avec la restauration, etc. Je suis contente de l'avoir fait et ça m'a remis bien en face de la réalité que je connaissais pour avoir vécu là-dedans, mais que j'avais un peu mis de côté pour ne voir que l'aspect joli. Voilà, et là je me suis dit, je vais rechercher un boulot de salarié d'une part, parce que je me suis rendu compte que, en tout cas à ce moment-là, le statut d'indépendant était générateur de stress pour moi.
Et raconte, pour trouver un boulot justement, est-ce que tu as pu exprimer tes passages en burn-out, etc., au recruteur? Est-ce que c'était facile? Comment t'as fait?
Alors, j'ai eu un premier entretien d'embauche suite à un examen écrit que j'avais réussi. Là, en fait, c'était un boulot de direction d'ASBL. Alors, au départ, je me suis dit non, je n'en veux pas parce que c'est beaucoup trop de responsabilités, c'est plus qu'un temps plein, si je suis réaliste. Mais c'était via un ancien de mes formateurs qui était membre du CA, qui me voyait comme la personne la plus compétente pour reprendre ça, et la SBL était en difficulté. Et je m'étais dit, je vais quand même faire la procédure parce que ça me remettra un petit peu dans le mouvement. Je n'avais pas envie de le décevoir non plus en lui disant un nom d'office. Et en même temps, je me disais, c'est pour jamais, peut-être que je m'apercevrai que ça me convient. Et donc là, à l'entretien oral, je l'ai dit. Et en même temps, j'allais à cet entretien oral avec pas la volonté de remporter le job. C'était assez particulier. Et donc, quand j'ai eu l'info que ce n'était pas moi qui étais reprise, c'était un soulagement. Mais donc, j'ai eu un contact téléphonique pour demander un peu le feedback. Et donc, ils m'ont dit, en fait, qu'ils avaient vraiment hésité entre moi et l'autre candidat qu'ils ont choisi. Et que ce qui les avait dissuadés, c'était que j'avais l'air fort stressée, que j'avais pas l'air à 100% dans le truc, et que comme j'avais parlé du burn-out, ils trouvaient qu'il y avait encore une fragilité par rapport à ça. Et donc suite à ça, je me suis dit, le burn-out, j'en parlerai plus. Parce qu'en plus, dans mon CV, comme j'avais eu les projets traiteurs, etc., j'avais pas vraiment de vie que j'étais obligée de
justifier.
De justifier, voilà. Et en même temps, mon CV n'était pas fou. Et donc, suite à cette expérience-là, je me suis dit, j'en parlerai plus. Et donc, j'ai passé 2 ou 3 autres entretiens pour lesquels j'ai pas été reprise. Et puis, fin août, là, j'ai eu un entretien où j'étais beaucoup mieux physiquement et mentalement. Je pense que à celui du mois de mars où j'étais en fait au tout début de ma recherche, j'avais pas encore bien récupéré, j'étais encore fort insécurisée. Et donc là, l'entretien s'est super bien passé, je me sentais super bien, super confiante, j'avais vraiment envie de ce boulot et j'en ai pas parlé. Il n'y a pas eu de question par rapport à ça. Voilà. Mais alors, l'effet négatif, je pense, c'est que comme je n'en ai pas parlé, je me suis mis moi-même une pression. Ça ne se voit pas et donc je ne dois pas craquer ou je ne dois pas manifester de difficultés.
Donc ça veut dire
Or,
que tu as eu ce boulot, c'est
j'ai
ça?
eu ce boulot. Ouais. J'ai eu ce boulot et en fait, donc j'ai eu ce boulot. Dans les faits, c'était un boulot de formatrice chargée de projet de formation et de communication dans une grosse structure type ONG où je me reconnaissais énormément dans les valeurs. Dans le boulot, il y avait un aspect, en fait, il fallait que je forme autour d'une application informatique. Dans le descriptif de fonction et au moment de l'entretien, ce n'est pas un point qu'on a abordé énormément. Et ce n'est pas un point sur lequel j'ai posé beaucoup, beaucoup de questions, parce que j'étais vraiment dans la volonté d'avoir ce boulot. Et je m'étais dit, bah, je retrouve mon boulot de formatrice, chargée de projet, enfin, c'est mes compétences, c'est ma formation. J'ai un peu occulté cet aspect-là. Et puis très, très vite, je me suis rendu compte que la partie application informatique, c'était le gros morceau. Que j'y connaissais rien du tout, que ça m'intéressait pas, que je devais participer à des réunions de développeurs informatiques qui me gavaient. Enfin, il y avait beaucoup de néerlandais. J'avais bien dit que j'étais pas bilingue, mais ce qui n'est pas le cas. Mais bon, voilà, j'avais fait du néerlandais, je pouvais assurer. Mais donc ça a aussi généré pas mal de fatigue mentale parce que j'étudiais en même temps mon vocabulaire spécifique, etc. Je devais découvrir un peu le monde des développeurs informatiques, essayer de comprendre de quoi il s'agissait. Et cette application informatique, en fait, c'était pour encoder des dossiers de personnes en lien voilà, avec une procédure juridique très, très précise, mais aussi très, très complexe. Donc, c'était vraiment des aspects que je ne maîtrisais pas du tout. Et là, donc, j'ai commencé début octobre et au mois de décembre, j'étais déjà dans un état de stress assez important.
Et le fait aussi, comme tu disais, de ne pas l'avoir mentionné, ta fragilité, du coup, tu t'as forcé un peu aussi
Oui.
sur
Oui.
tes...
Et donc après coup, je me suis dit, en fait, c'était pas une bonne chose de ne pas l'avoir dit, parce que voilà, je m'étais un peu enfermée moi-même en disant, mais si je sens un moment difficile, je vais pas non plus en parler, etc. Et au mois de mars, donc quand j'ai eu l'entretien après 6 mois d'entrée en fonction, j'y suis arrivée en me disant, non, c'est bon, je dis que j'arrête, quoi. Ça ne me convient pas du tout. Et puis en même temps, enfin, je me disais ça, mais sans en être convaincue à 100%, ben parce qu'il y avait l'aspect financier où je me
Financier.
disais, oui, mais voilà, okay, je repars à la case zéro et je n'ai pas encore d'autres jobs en perspective. Ça me stressait très. Comme en fait, je suis seule avec mes enfants, ben voilà, c'est retomber sur le chômage financièrement, c'est trop compliqué. Mais je suis quand même arrivée à l'entretien en me disant non, je veux leur dire que j'arrête, c'est pas possible. Et puis en même temps, on était à 3 semaines de la première formation et je me disais, mais je peux pas les laisser tomber parce que sinon la formation elle va pas avoir lieu, c'est la grosse merde, il y a personne qui va pouvoir prendre le relais. Parce qu'en fait, ce qui a joué aussi, c'est que j'étais seule sur ce projet-là. C'était en fait un peu le projet pourri dont personne ne voulait. Je crois qu'ils m'avaient dit qu'ils n'avaient pas eu beaucoup de candidatures. Donc, je crois que c'est pour ça que j'avais été engagée aussi, même si je n'avais pas toutes les compétences de base. Et voilà, je crois que de nouveau, une question de loyauté, je ne peux pas les laisser tomber, je ne peux pas craquer. Et voilà, dans l'entretien de fonctionnement, finalement, ils étaient positifs. Hein. on est revenu sur un incident qui avait eu en disant bon, maintenant c'est réglé. Parce que ce qui a concouru aussi au niveau du stress, c'est que vu qu'on était en période Covid, confinement, incertitude par rapport à ça, je leur avais dit bah, il faut qu'on vise une formation en ligne, comme ça on est sûr. Et j'avais entendu qu'au niveau de la structure générale, il y avait une plateforme d'e-learning. Mais il n'y avait jamais eu de collaboration avec eux. Et donc, moi, je suis arrivée avec ma grande naïveté, mes gros sabots, en disant « j'aimerais bien collaborer, pouvoir bénéficier de la plateforme ». Et en fait, au début, la personne qui en était responsable a fait barrage énormément. Elle a mis 3-4 semaines à répondre à ma demande d'une première réunion. Et puis, très vite, elle a dit « oui, mais Véronique, elle ne fait pas partie du service formation du département et moi, je ne traite qu'avec le service formation de votre département. Donc, c'est un collègue qui va participer aux réunions et qui lui fera le feedback. » Et enfin, voilà, ça a été très, très compliqué. Il a fallu que je dise à mes supérieurs « ça ne va pas, enfin, je ne peux pas travailler comme ça, j'en ai besoin de cette plateforme. » Essayer d'identifier quel est le problème. Et voir quelle solution on peut trouver. Donc, ça s'est résolu, mais voilà, ça a aussi généré pas mal de stress en me disant, mais même au sein de la structure, ok, on n'est pas dans le même département, mais je suis soutenue par personne, quoi. Surtout que j'étais seule sur le projet aussi, et qu'au final, voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'à l'entretien de fonctionnement, ben, finalement, je n'ai pas dit que je
n'ai pas tenu le coup.
J'ai tenu le coup, la formation a eu lieu, elle s'est bien déroulée, tout le monde était content. Et puis, en fait, c'était un premier volet de formation, mais il y allait en avoir plein d'autres parce que l'application était en développement avec chaque fois des paquets de fonctionnalités. Mmh. Et comme j'ai eu la mauvaise surprise de me rendre compte que moi, j'étais là, au final, pour rédiger le manuel d'utilisation, que ça a été un enfer, mais voilà qu'on a fait, je leur ai dit, pour les prochaines formations, je ne fais plus ça, je ne veux plus. Et donc, on a eu des réunions d'évaluation du projet, etc., pour essayer de faire évoluer mes tâches et puis même faire évoluer l'organigramme complet du projet parce qu'il y avait des choses à améliorer. Et donc, on a eu ces réunions d'évaluation jusqu'à mon départ en vacances mi-juillet, où je me disais, ben voilà, c'est chouette, ils font l'effort de m'entendre, ils font l'effort d'essayer d'apporter des modifications. Et en même temps, je dois bien m'avouer que ce ne sera pas suffisant pour moi parce que je serai quand même amenée encore à faire des tâches que j'aime pas. J'ai commencé mes vacances assez fatiguée et stressée. Cette fois-là, on est parti en vacances à la montagne. D'habitude, je fais beaucoup de sport, on avait pris les VTT. Et ça faisait 2-3 mois que quand on faisait du VTT, j'avais un peu le vertige, je n'étais pas à l'aise, j'étais beaucoup plus stressée que d'habitude, alors que je peux être un peu fonceuse, etc. Et donc, je suis revenue de vacances, j'avais l'impression de ne pas avoir été, enfin, de ne pas m'être assez reposée, et je n'ai pas su reprendre le travail, en fait. Je me suis mise le lundi devant mon ordi, pour commencer, parce que j'étais en travail à distance à ce moment-là, j'étais incapable de me concentrer. Donc, j'ai essayé toute la matinée de me concentrer pour traiter les mails, me remettre dans les dossiers, etc. L'après-midi, ça a été encore pire. J'ai réessayé le lendemain matin, et puis je me suis dit, je suis allée voir mon médecin, quoi.
Et là, t'as de nouveau
troisième épisode. Ouais.
Mmh. Ouais. Et ça a duré combien de temps, celui-là?
Donc ça, c'était tout début août, jusqu'à janvier, j'étais pas bien. J'étais de nouveau très fatiguée, difficulté de concentration, morale vraiment dans les chaussettes, triste. Et j'ai commencé des ateliers. Donc là, j'étais toujours suivie individuellement. Donc finalement, j'avais repris un suivi assez vite après la dernière thérapeute, suite à mon deuxième épisode. Et j'avais trouvé quelqu'un, ça faisait déjà bien un an et demi qu'elle me suivait. Parce qu'en fait, au fil de mon parcours, je me suis aperçue que ben voilà, j'avais des caractéristiques au potentiel, etc. Donc, j'avais eu un accompagnement par rapport à ça. Et puis là, on était aussi dans une identification de troubles de l'attention, en fait, qui peuvent être liés aussi avec le haut potentiel, qui peuvent être exacerbés avec le burn-out, etc. Et donc, j'étais suivie individuellement. Et donc, ça me faisait beaucoup de bien parce que ça me permettait de mieux me comprendre, mieux me connaître par rapport à ces caractéristiques-là, de, finalement, hyperactivité physique, hyperactivité mentale, vulnérabilité au stress, à l'angoisse, à l'anxiété plutôt, qui étaient des caractéristiques de base. Je ne savais pas pourquoi elles étaient là, mais qui faisaient partie de moi et pour lesquelles ben, la méditation m'avait un peu aidée, mais au à la fin, j'avais quand même un peu abandonné, que je n'arrivais plus à la mettre en pratique. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé le Reiki et le yoga en me disant, je vais aller vers des choses qui passent plus par le corps, l'intuition, le ressenti. Et j'ai aussi suivi, je me suis aussi inscrite à un groupe Rebondir après le burn-out. Ben c'est via cette personne-là que tu as eu mes contacts.
Oui,
et ce travail, oui, Martine.
Martine et nous, oui, elle, oui. Elle va venir parler justement au salon Rebondir. Donc,
mais voilà. Voilà. Et en fait, ce suivi de groupe m'a fait énormément de bien aussi parce que dans les premiers épisodes de Burnout, ben, comme j'aime beaucoup lire et qu'on avait aussi un projet de formation en formation d'enseignants sur le Burnout, je connaissais les descriptions théoriques du Burnout, j'avais lu des témoignages de personnes en Burnout, j'avais lu des bouquins sur comment rebondir après le Burnout. Mais voilà, ça restait moi toute seule dans mon coin qui lis ça et le travail en groupe, on était un groupe de 6, ça a eu un effet démultiplicateur parce que ça faisait du bien d'être ensemble, de partager nos difficultés, en entendant parler les autres de comment ils se sentaient avant, pendant, après le burn-out, pendant la convalescence. Ça, je me reconnaissais en fait, et c'est seulement à ce moment-là, mais je l'avais dit à Martine, c'est seulement à ce moment-là, au troisième épisode, et grâce à cet accompagnement-là, que je me suis dit, mais en fait, le burn-out, c'est une maladie. Et ça m'a permis en fait de sortir de la culpabilité que j'avais en me disant, si j'ai un burn-out, c'est de ma faute, c'est parce que je ne suis pas assez solide, pas assez courageuse, pas assez solide mentalement, etc. Et en même temps, via mon dernier employeur, j'ai ma chef, quand j'étais en burn-out, ça se passait très bien avec elle, enfin, ma dernière chef en date, parce qu'il y a eu des changements dans la structure, m'avait dit, ah ben tiens, tu sais, le secteur propose, si tu remplis un dossier, un bilan de compétences, donc financé par le secteur. Et ben, c'est comme ça, au départ, que j'ai rencontré Martine, parce que j'avais rentré ce dossier pour bénéficier du bilan de compétences, et j'avais choisi l'organisme. On pouvait choisir différents organismes auprès duquel faire son bilan de compétences, et j'avais choisi le CFIP parce que je les connaissais de mon ancien boulot, parce que j'avais beaucoup aimé le profil de Martine et ce qu'il proposait. Et ce bilan de compétences que j'ai commencé en décembre, je pense, je n'étais pas encore au milieu de ma forme, ça a été un accompagnement, je crois, de 4-5 mois. Je pense qu'on a terminé au mois de mai ici. Ça m'a vraiment fait beaucoup avancer aussi sur toute cette relecture de mon parcours, des épisodes de burn-out, et ça m'a remis en confiance aussi par rapport à mes compétences clés. Donc, suite à toutes ces expériences professionnelles, je m'étais dit, je sais que ce que j'aime, c'est former, c'est être en contact avec le groupe. J'avais eu une confirmation dans mon dernier boulot. Finalement, un des moments que j'ai vraiment beaucoup apprécié, c'est quand j'ai présenté la formation sur l'application à mes collègues directs, où là, j'étais en présentiel avec eux. Et donc, le bilan m'a permis de confirmer ce que je m'étais dit, c'est qu'il me faut un travail de terrain, en contact avec les gens, où je peux exercer ma créativité dans la création du contenu, du dispositif, où je peux avoir cet aspect stimulant intellectuellement, s'il faut que je lise, que je me renseigne, etc. Il ne faut plus que je sois dans un boulot de coordination avec plein de mails à gérer, des journées entières devant l'ordinateur, des tableaux Excel à remplir méticuleusement. Enfin, voilà, ça m'a vraiment permis d'identifier mes compétences, les tâches qui me donnent de l'énergie et les tâches qui m'en prennent beaucoup trop.
C'est ça.
Et voilà.
Oui, donc vraiment ce parcours-là en groupe et ce bilan de compétences t'ont ouvert vraiment les yeux sur pas mal de choses, sur ce que tu voulais, ce que tu voulais plus. Et donc du coup, ça t'a permis de retrouver maintenant un emploi qui te correspond
Oui.
totalement.
Donc ici, bah, déjà, on n'avait pas encore fini le bilan de compétences, que je me sentais suffisamment en forme mentalement et physiquement pour recommencer une recherche d'emploi. Et donc à partir, je crois que c'était ouais, avril, j'ai commencé à introduire des candidatures, très peu. Et donc ici, j'ai commencé un nouveau boulot depuis le 7 juin. Et je me sens comme un poisson dans l'eau, en fait, parce que j'ai trouvé un boulot où, bon, évidemment, c'est les débuts, mais dans les autres boulots, les premiers jours, il y avait toujours des trucs sur lesquels je tiquais. Ici, il n'y en a pas encore eu, parce que je me trouve hyper en phase avec les valeurs, mais qu'en plus, ben, ma fonction et les tâches qu'on me demande sont vraiment celles que je cherchais. J'ai des super collègues. J'ai un environnement de travail multiculturel et ça, je trouve ça très, très chouette. Je suis à moitié italienne, donc je pense qu'il y a un petit peu
Il y a
de
ça
choses
qui,
de ce
ouais.
côté-là qui s'expriment. Je m'étais mis des limites aussi au niveau du temps de déplacement parce que, voilà, 1 heure de trajet pour moi tous les jours, c'était hors de question parce que je trouve que ça surajoute en fatigue, surtout pour moi. Donc voilà, enfin jusqu'à maintenant, il répond à tous mes critères.
Chouette, allez.
Ouais.
Ouais, c'est vrai que c'est bah, quand on a écouté maintenant tout ton parcours, etc., on voit que à chaque fois, t'as appris, en fait. Finalement,
Ouais.
à chaque
Oui.
burn-out, t'as appris ou t'as testé des choses, par exemple le traiteur, et t'as avancé dans ton cheminement. Et c'est vrai que du coup, c'est riche d'apprentissage, en tout cas.
Oui, c'est riche d'apprentissage. Bon, c'est riche de baffes aussi et
Oui, non, c'est
et un
clair,
peu de
là.
difficultés. Je pense qu'au départ, enfin, j'avais lu une fois que un burn-out, ça pouvait vraiment être une occasion de faire le point, de se reconstruire et de redémarrer vraiment en phase avec soi-même. Je pensais l'avoir compris après le premier épisode, mais je me suis aperçue en fait que non. J'étais juste retournée dans ce que je faisais déjà avant avec les mêmes habitudes. Donc là, je n'avais pas du tout compris. Au deuxième, je me suis dit, bon, là, je pense que maintenant, j'ai compris. Ben non. Mais je pense qu'effectivement, ce que je n'avais pas compris, c'est que, voilà, il y avait certains aspects de mon histoire, de ma personnalité, qui disaient que je me suradaptais pour plein de raisons. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, mais notamment. Pour la sécurité financière. Donc, je m'imposais de rester dans un boulot qui ne me convenait pas à 100% pour des raisons de sécurité financière. Je me suradaptais, je ne disais pas non. Voilà, enfin, y a plein. Ça m'a permis d'identifier, oui, plein de facteurs de risque et que si je ne m'en débarrassais pas, mais en fait, j'allais continuellement rejouer comme ça des épisodes où j'investis mon énergie et puis à un moment, j'arrive au bout et c'est burn-out et puis je remonte la pente, je redémarre et voilà. Donc oui, riche d'apprentissage, riche de plein de belles rencontres aussi. Avec les
Et
personnes qui m'ont entourée. Oui.
oui, on te souhaite en tout cas une belle expérience là maintenant, là où tu es, avec tes nouveaux collègues et ta nouvelle fonction qui te va comme un gant, apparemment. Donc c'est chouette.
Oui.
Et pour terminer, est-ce que tu voudrais dire quelque chose aux personnes qui vivent justement un burn-out pour le moment? Qu'est-ce que tu voudrais leur dire?
Ce que je voudrais leur dire, c'est que je sais à quel point c'est difficile quand on est dedans, à quel point on a l'impression qu'on n'en sortira pas, que c'est finalement une fausse croyance de dire que ça ne repose que sur nous, le fait d'en sortir ou pas, que le fait de se faire aider individuellement, mais aussi par des groupes comme celui auquel j'ai participé avec Martine, c'est vraiment quelque chose de très, très porteur. Et tous les. Ben, on était 6 et je pense que les autres personnes ont exprimé ça à chaque fois au débriefing de chaque séance, à quel point c'était porteur. d'apprendre à se connaître, parce que je pense que c'est ça qui permet après d'identifier les facteurs de risque, d'identifier ce sur quoi on a prise, et que bah, finalement, je pense que c'est de l'apprentissage de toute une vie aussi, et que si on n'a pas tout compris au départ, c'est pas grave. Je pense que on ne peut comprendre que petit à petit et qu'on a des phases comme ça de compréhension parce qu'on est prêt à comprendre telle chose et puis que ben, la suite, ce sera plus tard parce qu'on n'est peut-être pas encore prêt ou peut-être parce qu'on a encore besoin de rejouer, c'est-à-dire de revivre certaines situations difficiles pour comprendre d'autres choses. Mais en tout cas, de garder espoir et de vraiment se débarrasser de la culpabilité parce qu'elle ne... Elle n'aide absolument pas, elle ne fait qu'enfoncer. Et voilà, retrouver vraiment confiance en soi et confiance en la vie.
Merci. Merci pour tout, pour ton partage, pour d'avoir pris le temps aussi de nous partager tout ça. Et si jamais vous avez des questions pour Véronique, vous pouvez toujours passer par moi et je lui transmettrai vos questions. Voilà. Et merci beaucoup, Véronique.
Oui, merci voilà, de m'avoir donné l'occasion de témoigner aussi. Je pense que ça donne un peu de sens aussi à tout ce que j'ai vécu.
J'espère que ce témoignage t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à nous le dire et à partager celui-ci autour de toi. Merci beaucoup pour ton écoute et à très bientôt pour un prochain épisode.